quelque chose de bleu, c'est vrai, dans ce lac, mais il y a surtout cette impressionnante surface de végétation. Des dizaines, des centaines de kilomètres paraissent nous entourer. C'est bien sûr des frondaisons, des arbres qui font 30 ou 40 mètres de hauteur. Lorsqu'on parle de la jungle, lorsqu'on parle d'humidité, lorsqu'on se retrouve au nord du Guatemala, dans cette région de Flores, on se dit qu'il est bien normal qu'au siècle dernier, il ait fallu des jours, des semaines pour qu'un chiclero ou quelqu'un qui a... Bon, il y a juste un siècle, on découvrait le chewing-gum et les hommes qui vont partir à la recherche de cette gomme à mâcher, de cette sève assez curieuse qui sort du chicle sapote. Ces hommes-là, lorsque la première fois ils ont aperçu en pleine jungle un reste de pyramide où tout à coup ces monstres qui montent à 70 mètres de hauteur, où les arbres tentent en vain de recouvrir même le temple supérieur, on voit cette porte béante et à l'intérieur cette surface étrangement petite, à peine un mètre de profondeur, mais répétez une fois, deux fois, trois fois. Et lorsque vous êtes perché là-haut, lorsque tout à coup vous vous retournez vers 5h, 6h, 7h du matin, aux heures bénies, vous sentez non seulement cette humidité dont je parlais, non seulement vous voyez ces arbres qui montent à 30 ou 40 mètres, qui sont maintenant en dessous de vous, mais tout à coup vous devinez quelque chose qu'on attend tous les matins, parce que les précolombiens préfèrent le lever du soleil au coucher. On attend ce début de la vie. Tout à coup, la nuit s'arrête, les dernières lucioles se sont éteintes, et subitement, vous voyez à l'horizon cette brume qui commence à monter. Tout était clair, pourtant la lune venait de disparaître, et vous avez cette impression curieuse d'un voile de pudeur qui se pose sur la forêt. Vous attendez et vous sentez d'abord une odeur, et ensuite vous ressentez quelque chose de curieux, comme un bruit de fond, comme si tout à coup le silence s'arrêtait et qu'il était remplacé par quelque chose qui est presque inaudible, mais qui prend place petit à petit, comme si un insecte s'était mis à voler et que vous l'entendiez, comme si un oiseau avait bougé dans son nid, avait changé de branche, comme si un singe s'était dit que dans quelques minutes, il allait avec son bruit guttural devenir le véritable singe hurleur, le mâle qui appelle son harem. Là-bas, du côté gauche, du côté de ces groupes étranges que vous devinez encore dans la brume, vous devinez ces pyramides qui montent vers le ciel, vous apercevez tout à coup une pointe, deux pointes, trois pointes à l'horizon. Vous vous dites que si on commence à voir le site de Tikal où vous êtes maintenant, c'est que les singes vont commencer, eux, à hurler. C'est vrai que les premiers toucans vont maintenant survoler par couple, comme les perroquets aussi. Cette jungle, la vie vient de reprendre. Partout, des cris, des rumeurs, et la température va commencer à monter. Le brouillard aussi, d'ailleurs, doucement. Et tout à coup, la chose que vous attendiez arrive d'un seul coup à l'horizon, déchire tout cela, et vous êtes en plein cœur de 30 km carrés de construction. Tout à coup, vous enlevez la verdure, vous remettez les pyramides, vous sortez votre peinture rouge, votre peinture bleue, verte ou jaune. Tikal est vivante, vous êtes aux alentours de 700 de notre ère. La vie vient de reprendre. Des dizaines, des centaines, des milliers de Mayas dans ces années 700 se lèvent, sortent d'une petite hutte faite de branchages avec une couverture toute simple de palmes sur le sommet, sur le toit. Et en même temps, dans le site que vous êtes en train de découvrir depuis le sommet de cette pyramide, vous êtes un grand prêtre, vous êtes un mage, vous êtes celui qui s'est retiré à l'intérieur pour la nuit et qui, au petit jour, vient s'asseoir en tailleur à l'avant de ce grand temple ou dans un de ses palais. La vie reprend, mais une vie qui ne ressemble pas à une vie urbaine comme on la connaît. Non, il y a bien sûr une place du marché, une place publique, mais il y a surtout tous ces ensembles, ces complexes, comme on les appelle aujourd'hui, qui reprennent également Non seulement j'ai envie de redire vie, mais c'est en fait tout ce côté cérémoniel qui va reprendre, parce qu'on a l'impression qu'à Tikal, il y a des centaines, des milliers de chapelles. Pourquoi est-ce que j'ose dire milliers? Eh bien parce qu'il y a plus de 2500 constructions. Des constructions qui font partie d'un centre cérémoniel. C'est un peu comme si dans une grande cathédrale, nous avions 2500 chapelles. Ça paraît incroyable. Et c'est pourtant comme ça que cette mégapole, cette métropole, ce centre religieux intense a dû vivre dans ces années 700. Avant de s'éteindre doucement aux alentours de 810, de 830 de notre ère. Alors, parler de cette immense éclosion des Mayas, là, en pleine jungle, au moment où, autour de ce site, des dizaines de milliers d'agriculteurs travaillaient, sortaient de leur hutte le matin pour aller planter le maïs, pour s'occuper du haricot, pour s'occuper de la courge qui allait pousser au cours des saisons, aller s'occuper aussi de l'irrigation et des différentes formulations qu'on a dû trouver chez les Mayas pour éviter trop d'eau ou pour en demander, au contraire, pour régler véritablement le niveau des eaux et l'alimentation de cette terre, de cet humus, qui n'est pas très épais d'ailleurs, qui n'est pas très important dans la jungle, ça ce sont des choses qu'on vient de découvrir, ben, il a fallu une société d'une rigidité incroyable. Et je m'installais tout à l'heure à l'intérieur du site, je sortais du palais, j'étais assis en tailleur au sommet de cette pyramide, vous voyez que tout reprend vie, mais ce qui est fabuleux, c'est de se dire que dans une surface pareille, qui pourrait ressembler en tout cas à celle d'une de nos grandes villes actuelles, sur une surface pareille, il n'y avait pas un brin d'herbe. Je veux dire par là que dans tout le centre, dans tout ce qui est l'acropole avec ses monstrueuses pyramides, vous mettez quand même un quart d'heure ou 20 minutes ou 25 minutes pour aller d'un coin et d'un point à un autre, eh bien il n'y avait pas un brin d'herbe parce que tout était lisse, tout était stucqué, tout était travaillé de façon remarquable et vous allez comprendre pourquoi. À Tikal, il n'y a pas de rivière, vous êtes sur un sol calcaire. À Tikal, il n'y a même pas une citerne, il n'y a pas de nappe phréatique. On a cherché l'eau jusqu'à 70 mètres de profondeur aujourd'hui, il n'y a pas d'eau directement sous le sol de Tikal. Non, vous avez dû créer des lacs artificiels, qui eux-mêmes étaient recouverts de stuc de manière parfaite, afin que l'eau reste pure. Il y a plusieurs de ces immenses lacs. Alors maintenant, vous venez de vous déplacer, vous êtes à nouveau au sommet d'un temple, d'un palais, vous regardez un de ces lacs étranges, en dessous de vos pieds, et à l'intérieur se mire une incroyable pyramide qui elle aussi monte à 60 mètres de hauteur. Et à côté, il y a une citadelle qui n'est même pas découverte aujourd'hui, qui est encore complètement attachée à cette gangue végétale et qui ressemblait à une pyramide à l'intérieur de laquelle on avait déposé un enclos et encore une pyramide sur la pyramide. Quelque chose de monstrueux qui en ce moment mentalement se mire dans l'eau. Un lac qui lui descend à presque 100 mètres de profondeur. Je parle naturellement de la différence de niveau entre le sommet d'une construction est le fond de ce lac. Et pour arriver jusqu'au sommet, jusqu'à ces 100 mètres, il n'y a que de l'artificiel. Il a fallu que l'humain intervienne et crée des plateformes, des immenses remblais avec des millions de mètres cubes de terre avant de déposer la première construction en surface, avant que vous ayez la moindre petite parcelle de sacré. Tout était ainsi déposé, comme vous poseriez la pierre ou la gemme sur votre bague afin de mettre en valeur chaque chose, avec chaque fois une hauteur, un dialogue, des orientations qui aujourd'hui, à travers les arbres, mais surtout grâce à l'ordinateur, peuvent être déterminées. Vous allez voir, Tikal est construite comme si, chez le Maya, rien n'était gratuit. Un lieu une métropole religieuse où les rapports avec l'astronomie, eh bien, ces rapports paraissent chaque jour plus évidents. J'ai envie de vous emmener devant les premiers complexes que l'on visite lorsqu'on pénètre sur ce site, parce que naturellement tout est visitable à pied, c'est un immense parc, c'est un parc national, c'est un lieu où vous allez croiser un pécari, un petit atou, vous allez trouver peut-être, si vous avez de la chance, un jaguar, le dindon sauvage avec ses reflets verdâtres, un vert sapin assez curieux, et puis vous allez retrouver aussi tous ces oiseaux que j'évoquais tout à l'heure. Pénétrez sur ce premier complexe, les archéologues ont bien travaillé. Tout a été restauré. Vous montez d'abord sur une plateforme complètement artificielle, la même que j'évoquais tout à l'heure. Elle est vaste, cette place. Une très belle place de plus de 100 mètres de côté. En face de vous, une construction, une pyramide absolument parfaite avec des degrés. Juste en face, une deuxième pyramide tout à fait identique. Devant celle-là, vous placez mentalement 9 stèles. Qu'est-ce qu'une stèle ? Une pierre simplement découpée, de forme parfaite. Avec à l'avant un autel exactement, comment dirais-je, comme une tranche comme d'un cylindre découpé. Quelque chose de parfaitement rond, de parfaitement lisse, juste devant cette stèle qui elle aussi a une forme en arc, sobre. Aucune inscription, pas un seul hiéroglyphe, pas un seul motif. Bien sûr, vous n'avez qu'à penser peinture, vous n'avez qu'à penser fresque. 9 stèles, un chiffre maya bien précis. 9 est peut-être le signe le plus sacré. Quand en maya je dis 9, je dis jaguar. Quand je dis jaguar, je dis inframonde et je pense à tout ce qui est sous nos pieds. Vous voyez que involontairement ces stèles deviennent ce qu'on appelle les arbres de pierre. Elles ont pris racine dans ce jaguar et elles sortent de terre et elles vous lient avec le ciel. Un peu comme une sorte de liaison organique entre les deux mondes. Chaque stèle est un lien. Il y en a 9, il y a 9 degrés de l'inframonde. Et puis, juste en face, c'est-à-dire en parallèle, vous auriez un temple. Un temple juste déposé sur une autre plateforme de pierre qui elle-même était recouverte bien sûr de stuc. Tout est lisse, lisse, parfaitement lisse, comme ce que vous pouvez rêver de plus lisse. Un miroir de stuc avec de la couleur et sur cette plateforme, un temple. Devinez combien de portes ? 9 portes bien sûr. En face, exactement à l'opposé de la place, un enclos qui est un mur complètement fermé avec une superbe... Enfin, c'est une porte qu'on appelle un encorbellement, comme les Mayas savaient les faire, ces voûtes étranges qui montent ainsi de forme... Oh, c'est une forme en trapèze en fait. Et tout en haut, il y a juste une pierre qui est posée. Le tout tient grâce à la maçonnerie uniquement. Ça n'a rien d'une voûte véritable. Il n'y a pas de pierre faîtière qui aurait une certaine résistance pour maintenir la voûte. Non, quelque chose de très sobre. Une porte et puis un mur qui monte à peine en dessus de vos têtes, comme si on voulait simplement marquer cet enclos. Et de l'extérieur, vous apercevez à l'intérieur une stèle sublime. Avec des détails de sculpture qui vous troublent parce que vous venez de découvrir un visage. Vous venez de voir un grand personnage, un souverain, un chef religieux de Tikal. Il y a eu des dynasties, il y a eu des gouverneurs qui ont régné ici pendant, je dirais, des siècles. La preuve, c'est qu'ils ont eux-mêmes des noms. Mais attendez, vous verrez que devant la stèle, il y a aussi un autel. Sur cet arbre de pierre, vous avez vu ce visage. Oh, il aurait pu être juste martelé, juste abîmé. Vous savez, comme on le faisait en Égypte, on casse un peu le nez, on abîme un tout petit peu le front. Comme si, à un moment donné, on avait ressenti le besoin d'enlever le pouvoir à ce personnage. Comme si cette pierre était vivante, comme si cet arbre était véritablement quelque chose qui poussait, qui avait quelque chose de vital. Et autour, vous allez remarquer des détails secondaires. D'abord, une très belle série de hiéroglyphes. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut les lire. C'est vrai que de connaître le nom du personnage, savoir quel est son numéro, ça c'est très important. On vient de découvrir que les Mayas étaient comme n'importe lesquels de nos rois. Il y avait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et on retrouve systématiquement le numéro de la série, à côté du nom du personnage. Ça, ce sont des nouveautés extraordinaires qui nous montrent que les dynasties commencent à 1 et s'arrêtent par exemple à 30. 30 personnages, les uns derrière les autres, qui ont repris la succession, par exemple, sur ce site de Tikal. Quand on arrive à une trentaine d'hommes-dieux, c'est que la puissance, c'est que le pouvoir est quelque chose d'extraordinairement marqué. Là, nous étions par exemple en 751. C'est le moment où on a érigé cette stèle. Juste devant, il y a un autel. Et sur cet autel, il y a un personnage. Mais ce personnage n'est plus debout, il n'est pas fier, il n'a pas cette allure du grand seigneur tout harnaché, tout habillé, avec sa lance, avec son côté cérémoniel, sa façon d'ouvrir la main pour laisser tomber quelques grains de maïs ou de l'encens sur un autre autel qui est simplement dessiné, gravé sur la stèle. Non, sur l'autel qui est maintenant devant vous, sur ce cylindre un peu rebondi comme cela, parfaitement sculpté aussi. Il y a un homme qui est couché. Il a les bras tendus vers l'arrière. Il a les jambes qui sont complètement repliées, elles aussi vers l'arrière. Il y a une corde. Il est tenu comme si on avait créé un nœud avec ses membres. Il a la tête tendue vers l'avant. Il est prisonnier. Il est déposé lui aussi sur un autel. Ça sent le sacrifice humain. Il y a quelque chose de très fort. C'est un vaincu, c'est un prisonnier, bien sûr. C'est le pouvoir absolu du grand souverain sur tout ce qui l'entoure, sur tous les petits sites qui entourent Tikal. Bien sûr qu'on sent ses dépendances. On vient de remarquer par cet ensemble qu'il y avait une volonté. J'ai dit 751. Vous allez 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin, et vous retrouvez non restauré, c'est vrai, c'est peut-être encore plus beau. Regardez, là, sous les arbres, dans cette végétation un peu curieuse, dans cette mousse, sur cette mousse, vous devinez une forme. Vous n'avez pas remarqué que les pierres étaient taillées? Il y en a encore quelques-unes qui affleurent l'humus. Il y a des lianes un peu partout. C'est une pyramide et mentalement, vous cherchez la deuxième, vous la trouvez, elle est à gauche. Au fond, vous devinez tout en ruine encore avec juste le début d'un montant, d'une jambière ou d'un linteau. 1, 2, 3, 9 portes. En face, complètement démolie, un enclos tout à fait identique. La voûte s'est brisée, elle est tombée. La stèle est renversée. Les 9 stèles de tout à l'heure, elles sont prises dans les racines des arbres. Elles sont carrément éclatées. Les autels ont roulé sous la force de cette poussée végétale. Vous êtes carrément au 16e, au 17e, au début du 20e siècle. Vous découvrez Tikal pour la première fois. Prenez une pioche, prenez une pelle, et puis restaurez. Parce que aucune de ces pierres n'a bougé. Bien sûr, elles ont été bousculées par la végétation. Mais personne, aucun homme ne s'est permis d'y toucher. Elles étaient sacrées, elles ont été abandonnées à leur sort aux alentours des années 800. Et plus personne n'a osé réintervenir sur ce centre cérémoniel. Et pourtant, vous venez de reconstituer un deuxième complexe, tout à fait identique au premier. Il a été, lui, érigé 20 ans plus tôt. Et vous pouvez en trouver comme cela à Tikal, à partir des années 700, un peu partout. Si ma mémoire est bonne, il y en a 7. 7 fois, tous les 20 ans, pendant 140 ans, on a érigé 9 stèles, 2 pyramides, un temple, un enclos, une stèle, un autel, une date. Tous les 20 ans. Ceci signifie que non seulement les monuments, les constructions de ce site peuvent être associées entre elles, non seulement malgré la jungle, malgré le silence, malgré notre ignorance, on sent là. Vous venez d'interpeller cette espèce de message muet qui semble partout nous interpeller. Partout on ressent une filiation, une influence. Quand je dis influence, c'est qu'on a envie de remonter jusqu'au début des temps précolombiens. On a ressenti quelque chose d'Olmec, un jaguar, une coiffe superbe sur une stèle. Teotihuacan, la grande capitale qui se trouve pourtant à des centaines de kilomètres au nord. Ben oui, un guerrier de Teotihuacan qui vient accompagner, surveiller, aider un grand souverain de Tikal qui a pourtant une allure complètement maya. Des gens se déplaçaient dans l'espace, partaient de cette jungle chaude jusque sur les hauts plateaux du côté de Mexico. Faites mentalement le trajet. 100 km jusqu'à l'autoroute des Mayas, une rivière superbe, un fleuve de 200 mètres de large. Vous le descendez jusqu'au golfe du Mexique, vous longez tout le golfe jusqu'à Veracruz, vous montez jusqu'à El Tarim, vous faites encore 450 km, vous êtes à Teotihuacan. Un cardinal, un pape, un souverain, comment interpréter ces contacts entre le nord et le sud? De l'obsidienne, la perfection d'une pierre tranchante comme un rasoir. Tikal? Tikal avait simplement découvert le silex, un silex jaune parfait qu'on a exploité dans la région de Tikal. Il n'y a pas d'eau, mais il y a du silex. Vous avez du silex, vous inventez des réservoirs et puis vous construisez 2500 bâtiments en quelques siècles. Depuis quelques années, on a reconnu les souverains de Tikal. Je vous emmène dans le dernier complexe. Vous venez de descendre de la grande pyramide. Vous avez entendu les derniers hurlements, je dirais feulements pratiquement des singes. Ces singes qui se sont rassemblés et qui sont repartis dans leur petit coin. Ils savent très bien que dans quelques minutes, dans quelques heures, les premiers touristes vont arriver, que le site va être réoccupé. La nuit est terminée. Et vous descendez de cette pyramide, non pas par l'escalier, bien sûr, mais au contraire par les racines, par les échelles qui ont été déposées sur le côté de cette pyramide. Oh, c'est une véritable escalade, elle n'est pas facile. Vous venez de vivre un des plus grands moments de votre existence. Vous avez ressenti quelque chose de premier, quelque chose de magique. Le monde s'est éveillé avec vous. La nature est plus intense que jamais. Vous avez quelque chose au fond de votre cœur, au fond de vos tripes qui a changé. Vous descendez, vous redécouvrez un de ces complexes. À l'intérieur, vous retrouvez une stèle. Une stèle qui, elle aussi, évoque un autre souverain. Il s'appelle, je peux vous le nommer aujourd'hui, Akakao. Akakao, c'est un des plus grands, un de ceux qui a osé construire plusieurs pyramides d'un seul coup. Mais attention, il a fallu des milliers d'ouvriers pour ériger ces plateformes, pour monter comme cela à plus de 45 ou 50 mètres vers le ciel, y déposer un temple avec des murs qui font 6 ou 7 mètres de profondeur. Quand je parle d'épaisseur de murs, c'est tout simplement parce que dessus, il y a une crête qui monte exactement vers le ciel comme un peigne géant. Et sur ces crêtes, qui font souvent 17 ou 18 mètres de hauteur, il y a, et nous le savons, nous le devinons aujourd'hui, il y avait des masques. Il y avait même parfois des personnages assis. Un personnage assis sur un trône qui fait 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres de hauteur. Vous sortez vos pinceaux, vous y mettez de la couleur et vous déposez ça sur un fond, sur un écrin de verdure. Vous aurez remarqué maintenant que ces glyphes, ces stucs, ces reliefs, ça prouve cette volonté des hommes de régler quelque chose qui obligatoirement ressemble à une horloge. Je dirais qu'il y a même une horloge cosmique. Il y a cette configuration architecturale qui est tellement élaborée qu'on sent que c'est bien quelque chose de réglé. Les stèles, les temples, les pyramides, tout cela semble se répondre mutuellement. Je dirais que leur relation utilise exactement les mêmes mathématiques que les astres. Regardez le ciel. Vous l'avez observé cette nuit avant d'arriver sur votre pyramide. Vous avez laissé la nuit s'estomper avant cette première lueur du jour. Et là, vous ressentez que chaque bâtiment semble avoir eu pour fonction de fixer un point, par exemple un point de l'horizon, de dessiner des diagrammes qui sont très compliqués. Et on commence à peine à deviner tout cela. Il a fallu l'invention de nos ordinateurs, il a fallu avoir la possibilité de mettre en boîte toutes ces données, toutes ces visées, toutes ces formules architecturales pour tout à coup remarquer qu'il y a des liaisons, je dirais, organiques. Parce que Tikal, c'est encore pour nous une sorte de cryptogramme géant où les constructions et certaines visées se répondent. Je vais simplifier la chose. Tout cela se répond comme par jeu de miroir. La pyramide la plus importante, j'ai même pas envie de les nommer, parce que dire numéro 1, numéro 2, numéro 4, c'est un peu méchant, parce qu'on a simplement mis des numéros. J'aime bien la pyramide du grand jaguar, c'est plus évocateur. Il y avait une tombe extraordinaire à l'intérieur. Elle répond effectivement à celle qui est en face, qui a quelque chose de plus massif, et qu'on prétend être celle de la femme, éventuellement, en tout cas érigée pour la femme du grand souverain. Donc, si je place ces réponses, c'est que sur la grande place, les pyramides se projettent comme cela, l'une face à l'autre. Il y a aussi l'ombre. L'ombre, quand je parle de projection, c'est aussi quelque chose de curieux. On a toujours l'impression que les ombres glissent vers la construction voisine et qu'il y a un centre qui s'associe à un autre centre, comme je le disais aussi, construit tous les 20 ans et toujours parfaitement orienté à une stèle, à une porte de palais. Alors ici, je peux vous dire immédiatement, vous l'avez ressenti simplement par ma visite comme cela, un peu rapide, que les chiffres sont devenus des nombres. Et quand on dit nombre, immédiatement on évoque ce côté un peu mystique, cette urbanisation qui nous a paru un peu débridée. Elle reflète bien cette horreur du vide. Cette horreur du vide qu'on va ressentir tout au long de notre contact avec l'art précolombien et face à cet infini aussi de l'univers. Vous avez ouvert les yeux vers le ciel cette nuit, vous avez vu ce tapis incroyable du cosmos, ces étoiles qui sont là et qui sont piquées comme s'il fallait remplir tout l'espace. Il n'y a pas de vide dans l'univers visuel d'un ciel nocturne, il n'y en a pas non plus lorsque vous imaginez maintenant ces 2000 et quelques constructions. Et puis autour, vous avez encore des centaines de kilomètres carrés qui sont occupés par des milliers de constructions paysannes qui, elles, sont réparties un peu comme on devrait être réparti pour pouvoir récolter sa petite zone et puis ensuite la suivante. Il y a quelque chose de stellaire, il y a quelque chose de ciel piqué d'étoiles, comme cette surface du centre cérémoniel, cette cité-État était ainsi piquée avec une galaxie peut-être plus puissante vers le centre qui s'espace petit à petit vers l'extérieur. On a toujours eu affaire à une véritable reproduction cosmique, une reprise que vous avez sentie maintenant à l'échelle humaine. Les deux choses se répondent. Sortez un vase sublime d'une tombe, laissez-le tourner dans votre main. Il est cylindrique, il est parfait. Il est peint sur un fond ocre ou blanc, avec quelque chose de cursif, comme si votre pinceau était aussi délicat qu'un pinceau chinois, grec ou musulman. Et vous avez réussi ainsi à créer des lignes. Le grand personnage est assis sur son trône, il fait face à quelqu'un qui se baisse ou qui s'agenouille, il y a des offrandes, il y a du pouvoir, bien sûr, une ligne de hiéroglyphes au sommet. Il n'y a pas qu'un vase, il y en a eu des milliers et des milliers dans toutes les tombes, en tout lieu. Les Mayas ont construit et surtout ont produit. Vous venez de repasser dans l'énergie, il faut dépenser cette énergie, non pour le présent, mais pour l'éternité. Vous avez construit sans cesse au rythme des calendriers, vous êtes artisan et vous devez produire des milliers de céramiques. Ces Mayas ont subi donc une évolution absolument vertigineuse que rien ne devait arrêter s'ils ne voulaient pas sombrer dans le chaos et la destruction. Vous venez de conclure une accélération suicidaire qui peut peut-être expliquer la chute, l'abandon, la destruction acceptée par toutes ces civilisations précolombiennes. Avec de tels buts, l'imploration ne suffisait plus. Elle devenait inutile. Vous venez de conclure, vous avez passé la fin du 9e Bakhtun, vous entrez dans le 10e, il n'y aura plus de Maya classique. Tikal s'éteint. Elle vit, le paysan est là, mais les pyramides se laissent recouvrir par la verdure. Le brouillard monte pour toujours. êtes au sommet de la pyramide du Grand Jaguar. Un autre point de vue. À votre gauche, le plus petit jeu de pelote de Tikal. Il fait quelques mètres de longueur, comme une miniature, comme s'il voulait communiquer avec l'endroit où vous êtes. Comme si ce jeu de pelote, c'était vraiment simplement l'idée de vous faire comprendre que la balle ne sera que l'astre solaire qui se déplace dans le ciel. Regardez une balle de caoutchouc rebondir sur ce sol parfait, et vous verrez, elle a quelque chose de magique. Le caoutchouc a été découvert par les précolombiens, nous en avons déjà parlé, mais c'est une matière étrange. Il faut systématiquement le faire rebondir, ce caoutchouc, pour qu'il reparte, comme le soleil que vous avez aperçu ce matin et qui s'est levé, et qui a redonné vie, même avant qu'il arrive, aux oiseaux, aux insectes, aux singes, aux dindons. Et vous avez ressenti au sommet, là, que sur la gauche, il y avait un endroit de vie, des palais qui ne ressemblent à rien d'autre que des labyrinthes. Oh, il y a des endroits plus confortables que d'autres. Ce palais, qui est là, juste au centre, qui est le plus parfait, vous présente trois portes parfaites, elles aussi. Je veux dire, une architecture fantastiquement équilibrée. Quelques masques sur le sommet, un toit complètement plat, à la mansarde, un peu. Et puis, des escaliers pour monter. Mais pas n'importe quel escalier, des escaliers monumentaux. Des escaliers qui, pour les petites jambes mayas, correspondent à 30, 40, 50 centimètres de hauteur. Comme si on voulait vous infliger l'escalier. Comme si on voulait vous humilier. Pour monter, pour vous montrer qu'il y a quelque chose de fort dans ce bâtiment. Vous voyez que même un escalier devient symbolique. Vous pénétrez à l'intérieur, il y a des endroits confortables. Mettez-y quelques fourrures, rajoutez quelques rideaux de couleur, mettez-y un peu de peinture. Ah non, ça n'est pas possible, tout est blanc à l'intérieur, c'est très sobre. Et vous remarquez tout à coup devant vous, là, au détour d'une torche, parce qu'il y fait souvent sombre, un graffiti. Il y a des centaines de graffitis, avec le côté ennuyeux du Maya qui aura passé une semaine, un mois, en pénitence, en attente, dans un de ses palais. Le graffiti est parfait. Une très belle coiffe de plumes. Un homme monté sur une civière qui se promène. Et puis, un immense éventail, lui aussi fait de plumes, qui fait 3 ou 4 mètres de hauteur. Des choses qui ont disparu. Les fourrures de tout à l'heure. Le tissu. Le confort de cette banquette de pierre et de stuc. Et puis, une petite porte secrète à l'arrière. Vous glissez, enfin, il faut presque vous baisser pour y passer. Vous retombez dans une autre salle, et puis encore une autre. Et puis tout à coup, vous retrouvez une porte. Il n'y a jamais de fenêtre dans les temples mayas. Il y a simplement cette forme de la voûte étrange, comme si vous étiez à l'intérieur d'une hutte parfaite. Et une hutte maya n'a pas de fenêtre non plus, il n'y a toujours qu'une porte. Là, elles peuvent communiquer de façon étrange, parce qu'il y a un côté rituel, bien sûr. Et au moment où vous passez cette autre porte, vous arrivez sur un balcon incroyable. Il n'y a même pas de rampe, il n'y a rien devant vous, c'est le vide parfait. Ce sont les quelques dizaines de mètres qui vous séparent de l'imagination d'un lac, de ce lac. Et en face, la plus grande pyramide, la numéro 5 qui se reflète dans l'eau, je le disais, la grande citadelle. Vous remontez sur la première et vous remarquez qu'à l'opposé des palais où il y avait cette impression de confort. Attention, pas de cuisine, service sur plateau. Vous jeûnez pendant des semaines, des mois. De l'autre côté, il y a des pyramides et encore des pyramides. Sur une seule surface de ce qu'on appelle cette grande acropole, il y a eu plus de 56 constructions, les unes sur les autres. Comme si pendant 2000 ans, on avait ressenti le besoin de sacraliser, ou plutôt de faire revivre chaque fois un bâtiment. Il est mort, eh bien vous le laissez dessous, vous l'enterrez, sans vraiment le toucher. Les grands masques sont même protégés, des masques de 2,50 m de hauteur, toujours en plâtre, en stuc en fait, hein, et avec de la couleur qui a peut-être disparu au moment où on les a découverts, c'est vrai. Il suffit de quelques semaines d'oxygène pour que tout disparaisse. Quelques semaines de pluie, il pleut quand même une bonne centaine de jours par année dans cette jungle de Tikal. 56 pyramides les unes sur les autres, c'est un endroit fort, c'est un endroit de puissance. On a enterré des stèles, on a enterré de grands seigneurs. Vous êtes vous-même au sommet d'une tombe extraordinaire où on a trouvé des pièces de jadéite, où on a trouvé des urnes elles-mêmes totalement travaillées et recouvertes de plaques de cette jadéite verte. Et puis, vous avez remarqué qu'il y avait des dates toujours. On disait que tout était à faire de cette vaste reproduction cosmique qui avait été reprise à cette échelle humaine. Je disais aussi que l'homme devait construire sans cesse au rythme des calendriers. Alors, comment évoquer le calendrier et le temps chez un précolombien ? Lorsqu'il y a invention avec un I majuscule, il y a toujours une façon de repartir, bien sûr, et de faire un choix. Connaissez-vous exactement les raisons de notre zéro, du début de notre ère? Effectivement, vous allez penser à une naissance. Vous allez, dans l'année, la placer à un moment où tout à coup le soleil gagne sur l'obscurité. Noël. Noël, le sapin, les symboles étranges qui font que tout à coup, un calendrier pour une religion donnée s'installe, s'invente. S'invente avec un I majuscule, comme on invente un saint, comme on invente un événement, comme on invente une apparition. Eh bien, les Mayas n'ont pas été différents, puisque on va inventer chez ces Mayas une date qui nous paraît complètement fictive et qu'on a découvert grâce aux recherches chronologiques, grâce aux mathématiques. Ce sont des gens fabuleusement riches en mathématiques qui ont inventé non seulement la valeur nulle, mais qui ont inventé tous les systèmes de position que comprennent mieux d'ailleurs nos enfants parce qu'ils sont habitués à ces règles de mathématiques nouvelles. Des positions qui leur permettent de démarrer leur temps en 3114 avant Jésus-Christ. 3114 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas un seul Maya, il n'y avait même pas un seul Olmec en terre amérindienne, en terre mésoaméricaine. Alors pourquoi 3114 avant Jésus-Christ? Eh bien peut-être tout simplement parce que lorsqu'on calcule avec un système vigésimal, sortez un crayon. Là, je vous avoue que c'est assez difficile à comprendre du premier coup. Les positions, c'est quelque chose de sobre. Quand vous êtes Maya, vous avez deux mains et vous avez deux pieds. Donc vous avez cinq doigts sur chacune de vos mains et puis vous avez cinq doigts aussi à vos pieds. Donc vous arrivez à 20. Le système ne sera pas décimal comme le nôtre, il sera vigésimal. Compter par 20 signifie que si vous partez de l'unité, vous irez de 0 à 19, vous avez une vingtaine. Et si vous voulez multiplier le tout, il faudra naturellement remultiplier tout cela par 20. Donc à partir de 20, vous allez passer à 400. De 400, vous allez passer à 8000. De 8000, vous allez passer ensuite à 100. Combien? 100? Allez-y, faites le calcul. Vous n'avez qu'à multiplier jusqu'à l'infini. Mais l'infini chez un Maya s'arrête à 9. C'est-à-dire que lorsque vous serez à la 9e position mentale, vous serez au bout du temps et au bout des choses. Alors, vous placez cela comme une colonne. Fermez les yeux, imaginez l'unité en bas. Par-dessus, vous y mettez la vingtaine, 400, etc. Et puis maintenant, vous vous dites que vous avez envie d'écrire une date. Une date sur une de ces stèles, sur un de ces arbres de pierre. Alors, vous allez partir de l'unité. Vous allez inventer naturellement un mois de, vous l'avez dit? Oui, de 20 jours. Un mois de 20 jours qui va répondre à une année, non, pas une année de 400 jours. Ce serait trop faux. Vous allez choisir 360, c'est-à-dire 18 fois 20. Donc, en arrivant à 360 et que vous aurez choisi pour votre décompte, il y aura systématiquement 5 jours d'erreur. Laissez tomber cette erreur. Ça n'est pas important. On corrigera tout à l'heure. À partir de là, si vous prenez le multiple de 360, vous allez naturellement avoir 20 années de 360 jours comme position supérieure. Vous êtes à 7200. Vous allez continuer ainsi jusqu'à 400 années de 360 jours. Eh bien, imaginez-vous que vous allez construire une des premières grandes pyramides de Tikal aux alentours des années 430-435. 435, dans leur calendrier, s'écrit 9, 0, 0, 0, 0. 0 jours, 0 mois, 0 année, 0 fois 20 ans, c'est-à-dire 0 katoun, mais attention, 9 baktoun de 400 ans. Vous partez de 3114 avant Jésus-Christ, vous rajoutez 9 fois 400 ans de 360 jours et vous tombez en 435 de notre ère. Vous allez jusqu'à la fin de ce 9e baktoun, c'est-à-dire que vous rajoutez 400 ans de 360 jours, vous allez écrire la date suivante toute ronde, 10, 0, 0, 0, 0. Entre les deux, l'histoire des Mayas, l'histoire classique. De 435 à 830 de notre ère, il n'y a que du 9. Du 9e baktoun qui s'écrit 9, 0, 0, 0, 0, vous auriez ensuite 9, 0, 0, 0, 1. Un seul jour aura passé. Tout au bout, vous aurez 9, 19, 19, 19. Il ne reste plus qu'un jour et vous allez basculer dans le 10e baktoun. Thank you. Le monde a commencé un jour 4 août 8 Kumku de 3114 avant Jésus-Christ. Savez-vous qu'en 2011 de notre ère, nous serons un jour 4 août 8 Kumku 13 0 0 0 0. La fin. 13, c'est le dernier chiffre. C'est la chute absolue. Le 9 de tout à l'heure, c'est le jaguar. C'est l'inframonde. Ce sont les niveaux du monde infernal que les Mayas ont tellement respectés. La plus belle des pyramides, toutes les belles pyramides Mayas, montent vers le ciel en 9 degrés. Comme si le Maya l'avait construite vers notre ciel en pensant à ce qui était dessous. Comme si mentalement il l'avait faite à l'envers. 3114 avant Jésus-Christ, une date inventée, parce que ce 13 août 3114, cette date 4 août 8 Kumku, il n'y a que des chiffres. Rappelez-vous tout à l'heure, il n'y avait que des nombres même, des nombres magiques, des monstres sacrés qu'on déplace dans l'espace. Et en fait, si je reprends le calendrier, si je reprends les termes, nous avons commencé avec un jour. En maya, jour se dit kin. Kin, regardez-le, il est dans le ciel. C'est celui qui marque le temps d'un jour. Ce soleil implacable, kin, c'est la chaleur, c'est l'énergie. L'énergie de jour, l'énergie de nuit. Il y a 13 heures diurnes et 9 heures nocturnes. 13 heures diurnes et 9 heures nocturnes. Chaque fois, un kin a passé. Et après 20 kin, vous aurez un mois, c'est-à-dire un winal. Après 18 winal de 360 jours, c'est-à-dire, lorsque vous parlerez de 18 winal, c'est bien sûr 20 fois le multiple de 18 mois, c'est-à-dire 18 fois 20 égale 360, vous aurez un tun. Après le tun, vous aurez 20 ans de 360 jours, qui correspondent à 7200 de nos jours, bien sûr, et ces 20 ans s'appellent katun. Ensuite, il faudra attendre 144 000 jours pour arriver au baktun. Ce baktun, qui multiplie lui-même par 9, je le dis, je le répète, a commencé en 435 et se terminera en 830. Et c'est là qu'intervient la magie de quelque chose qu'on commence à peine à deviner. Je vous donne un seul exemple. Il y a eu des dates antérieures au 8e Baktun. Il y a eu des dates postérieures au 10e Baktun. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on a planté, c'est comme une pépinière. Vous avez compris que chaque fois que je mets une stèle en terre, c'est un arbre que je plante en terre, sur lequel on aura noté une date. C'est un arbre qui chronologiquement est planté à une date très précise. Tel souverain était au pouvoir en telle année, tel complexe a été construit tous les 20 ans en telle année et tel jour. La chronologie, le temps, c'est l'obsession. Sur tous les bâtiments que les Mayas classiques nous ont laissés, il y a une date très précise. Mais ce qui est fou, c'est que lorsque je passe la date de 810 de notre ère, c'est-à-dire 20 ans avant la fin du 9e Baktun, il n'y a plus que 3 cités précolombiennes chez les Mayas qui existent encore, qui sont encore vivantes, où les pierres parlent encore, où les arbres de pierre sont encore plantés. À partir de 830, il n'y a plus pratiquement de cités Mayas classiques qui ont osé planter une date, planter un arbre de vie, un arbre de pierre, un axe de pierre entre l'inframonde et la partie supérieure. Tout comme si les hommes qui avaient crié sans arrêt depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, attention, à la fin du 9e Baktun, quelque chose peut se passer. Il peut y avoir un problème à la fin de ce chiffre 9. Lorsque nous passerons à 10, c'est un peu comme pour nous, passer de l'an 1000 à 1001, ou passer de 999 à 1000, ou passer de 1999 à l'an 2000. Rien qu'en parlant de cela, tout à coup, vous avez quelque chose qui vous chatouille au niveau des tripes. Mais si vos autorités, si nos autorités nous disaient cela depuis le début de ce siècle et nous annonçaient le cataclysme final en l'an 2000, est-ce que vous allez vous-même respecter vos autorités en 1999? Est-ce que les autorités elles-mêmes vont s'auto-respecter en pensant qu'elles sont elles-mêmes, même si elles l'ont inventé, à la fin du temps, à la fin des temps? Que s'est-il passé chez les Mayas? Que s'est-il passé dans ces cités? On visitera encore Copan, on visitera encore d'autres de ces cités. Mais partout, on a l'impression, aujourd'hui, en archéologie, que quand on trouve une date qui dépasse à peine 830, à quelques mois, à quelques jours, souvent, la stèle, la sculpture n'est pas terminée. On était en train de graver un hiéroglyphe, et puis l'artisan a déposé le marteau de pierre à côté de la stèle, et il est parti. Il a disparu. Il a abandonné la cité au temps. comme si ces cités n'avaient pouvoir que dans un temps donné, comme si la vie des choses s'arrêtait, comme si le calendrier lui-même était un moteur de la vie, de l'histoire, de la civilisation, du pouvoir, de l'économie. Les Mayas ne sont pas morts. Le paysan, chaque année, au mois d'avril, prend son maïs et le plante en terre. La différence, c'est qu'il n'y a plus cette élite incroyable qui sait lire, qui sait écrire, qui connaît les mathématiques, qui a gravé tout cela dans la pierre, dans le stuc ou sur la céramique. Ces gens-là ont disparu. Vous avez le choix. Soit ils sont partis volontairement, mais je préfère leur couper la tête. Ils sont quelques centaines. Au moment où vous arrivez à ce moment cataclysmique, le cataclysme, à peine le cataclysme, un ciel tourmenté, un ciel d'orage, comme le nom d'un grand souverain Tikal, c'est déjà l'éclair, c'est déjà la foudre, c'est déjà la catastrophe, c'est déjà l'incendie. Non, pas beaucoup de violence, mais juste ce qu'il faut, une bonne jacquerie, c'est une théorie, elle est à moi, c'est un peu la façon d'interpréter la fin d'une de ces grandes civilisations. Mais c'est curieux de remarquer que dans l'histoire précolombienne, presque toutes les civilisations se sont éteintes par elles-mêmes, par implosion, par autodestruction. C'est un suicide. Savez-vous que chez les Mayas, le meilleur des paradis était donné à ceux qui avaient le courage de se suicider? Pourquoi? Parce que vous choisissez la façon, le moment, la méthode. Trouvez-vous un plus beau cadeau à faire aux dieux que de leur offrir tout ce qu'ils vous ont donné d'un seul coup, en choisissant vous-même la façon, le moment et la méthode? Laissez tomber une ville, laissez tomber le temps. C'est un peu arrêter les choses afin qu'après la destruction, tout puisse recommencer. Vous aviez déjà ressenti cette horreur du vide, vous avez peut-être une bosse qui vient de vous pousser à quelque part, celle des mathématiques mayas. Vous avez senti l'importance de cette valeur nulle, cette qualité qui fait qu'on arrive avec des positions à créer des mathématiques qui sont absolument incroyables. Sur certains de ces arbres de pierre, on a retrouvé des décomptes de temps, tenez-vous bien, qui remontent à des millions d'années en avant ou en arrière. Comme si le Maya avait voulu volontairement s'étourdir avec des chiffres incroyables. Imaginez-vous la 9e position. Bien sûr que mathématiquement, ça devient un chiffre qui va vous permettre de calculer avec des milliards de jours. Un Maya aux alentours de 600 de notre ère, quand nous-mêmes avions quelques petits problèmes et que l'arabe ne nous avait pas encore véritablement donné le zéro et que le romain s'amusait encore avec des x, des 1, des l et des c pour faire une simple addition. Le Maya avait déjà résolu tous ses problèmes mathématiques, mais il a été beaucoup plus fou. Je viens de vous faire pénétrer dans ce qu'on appelle le compte long, qui est une sorte d'arithmétique pour être sûr du moment où vous érigez un monument. Mais je vous ai dit que la date était fausse. Je vous ai dit que les années n'avaient que 360 jours. Il y a 5 jours d'erreur chaque année. Et bien dessous, vous allez mettre les corrections. Des corrections, vous mettrez la Lune, vous mettrez Vénus, ou vous mettrez le véritable calendrier solaire qui existait aussi. Et tout en haut, dans le glyphe introducteur qui est très marqué, vous mettrez le nom du « mois » dans lequel vous vivez. Des corrections incroyables qui font que finalement, aujourd'hui, grâce à la lecture et surtout au message d'un Diego de Landa ou de certains ethnographes qui ont pourtant tout détruit au moment de la colonie, nous connaissons parfaitement ce calendrier. Il y a celui-ci, mais je vous dirais que les Mayas avaient vu encore beaucoup plus fou, beaucoup plus large, beaucoup plus incroyable. Ils s'étaient inventé un calendrier qui a 13 fois 20 jours, c'est-à-dire 260 jours. C'est un calendrier magique, un calendrier qui sert pour les horoscopes, un calendrier agricole très certainement. Et ce calendrier tournait comme une immense roue dentée. Juste à côté, il y avait un autre calendrier qui lui était vraiment fait de 365 jours, 18 mois de 20 jours, plus un tout petit mois de 5 jours, le Wayeb des Mayas. Les deux tournaient comme de grandes roues dentées et se rejoignaient tous les 52 ans solaires. Et puis ça ne leur suffisait pas. Ils avaient remarqué que la planète Vénus, elle aussi, tournait dans l'espace et revenait de façon régulière, qu'elle revenait au même endroit et qu'elle s'alignait avec le Soleil tous les 584 jours, et que ce 584 jours se multipliait parfaitement, et que tous les deux siècles de 52 ans, le calendrier de Vénus rejoignait les deux autres. Et tout à coup, vous aviez trois roues dentées qui se mettaient sur les mêmes crans. C'était magique. Tous les 104 ans, il y avait un point d'ancrage encore plus fou que le point d'ancrage de 52 ans. Les Aztèques vont penser de la même manière. On éteignait tous les feux de l'Empire tous les 52 ans. Tout était éteint. On attendait que les Pléiades se relèvent. On faisait une botte. Une botte de pierre, qui était en fait une botte de roseau pétrifié. Et on prenait cette botte tous les 52 ans. On faisait une tombe et on enterrait le temps. On enterrait un siècle et on attendait le suivant. Mais tous les 52 ans, le cataclysme pouvait arriver. Vous venez de sentir, chaque fois, vous avez un sursis d'existence, un sursis qui fait que le temps est une chose absolue. Mais le temps est surtout une chose qui se boucle sur elle-même. C'est un cercle fermé. Le temps répond au temps, les bâtiments répondent aux bâtiments. Le calendrier n'est qu'un autre calendrier d'un autre calendrier. Ce que je vous dis maintenant, ce que vous entendez maintenant, ce que vous vivez maintenant, vous l'avez déjà vécu. Quelqu'un l'a déjà vécu et on le revivra. Le temps ne s'arrête pas, il tourne sur lui-même. Destruction, création. Le maïs est mûr, il est sec, il attend. Vous le plantez. Il pleut, il repousse. Le maïs est encore là. Grâce à qui ? Grâce à l'homme. C'est une plante hybride. Il faut la puissance, l'énergie, le sang, la vitalité de l'homme pour que ces dieux, ces choses étranges qui marquent le temps et l'espace, les astres, les civilisations elles-mêmes, continuent à revenir encore. Down.